RCF.
Un lecteur qui serait effrayé devant les 3000 pages que comporte La recherche du temps perdu, je dirais pour ma part qu'il s'agit d'un roman, d'un immense roman, d'un roman fleuve, dans lequel le narrateur cherche à réaliser ce qui est sa mission, ce qui est sa vocation, la création littéraire. Un auditeur qui craindrait de s'aventurer aussi dans cette œuvre, encore et toujours, je dirais que cette œuvre comporte des portes d'entrée qui sont celles, finalement, qui nous préoccupent tous. Bonjour Sylvie Toucheboeuf.
Bonjour Monserrata.
Nous allons explorer d'autres portes d'entrée que celles que nous avons évoquées dans la précédente émission où nous avons parlé du statut du narrateur et du temps qui sont les clés de voûte du roman. Proust, dans La recherche du temps perdu, comme un fil rouge, explore ce qu'est ce sentiment familier, connu de presque chacun, de presque tous. C'est celui de l'amour.
Oui, alors c'est vrai qu'il a pu aborder des thèmes qui ont fait scandale par leur apparente frivolité, notamment le snobisme ou encore l'homosexualité. Mais il est vrai que le thème de l'amour est d'une certaine façon revu par Proust, revu, relu, on pourrait dire aussi. En écho avec la dernière phrase d'Un amour de Swann, le narrateur écrit dans La prisonnière « Nous ne vivons qu'avec ce que nous n'aimons pas et que nous n'avons fait vivre avec nous que pour tuer l'insupportable amour. » Il écrit encore « L'amour est un mal inguérissable. »
L'amour, une maladie, Sylvie Toucheboeuf ?
Absolument. On retrouve, si vous voulez, l'influence de Racine, de Phèdre. C'est un auteur et c'est une œuvre que Proust cite très fréquemment. Et il faut constater que dans le roman, toutes les relations amoureuses se résolvent par un échec, par une impasse. Je prendrai comme exemple dans un amour de Swann qu'on a détaché
oui.
du premier volume, hein, du côté de chez Swann, parce qu'il, c'est vrai, il comporte une thématique et c'est un récit qui se suffit à lui-même. On a une rencontre, bien sûr, qui préside à l'amour. Charles Swann, un grand bourgeois, esthète, mondain, amateur de femmes faciles.
Collectionneur presque. Hein.
Collectionneur presque. On a même parlé de donjuanisme à son égard. Lorsqu'il rencontre Odette, qui elle est une ancienne cocotte, pas très intelligente, elle s'appelle Odette de Crécy parce que la particule lui a été apportée par un premier mari. Lorsqu'il la rencontre, il éprouve une immédiate déception. Elle est trop mince, elle est trop pâle, elle a les traits tirés, bref, pas le genre de femme qu'il aime. Or, il y a un processus là de la naissance amoureuse.
Une cristallisation, pourrait-on dire, comme le disait Stendhal
oui,
ou autre hein, chose.
Comme il disait, une espèce de roman, j'ai presque envie de dire oui, une espèce de cristallisation. Alors, il y a la déception. Cette déception laisse un vide. Et ce vide va être étrangement, étonnamment comblé par une création artistique, une image. Un soir, pour observer une gravure, Odette se penche vers Swann et sa chevelure se met à ruisseler. Elle ressemble alors à un personnage peint par Botticelli sur une fresque sur un mur de la chapelle Sixtine. Ce personnage s'appelle Zéphora, c'est la fille de Jéthro, la femme de Moïse. Et désormais, eh bien, Odette, qui est une femme plutôt médiocre, plutôt sotte, devient une œuvre d'art.
Et vénale, peut-on
dire
aussi.
De surcroît. Elle devient une œuvre d'art. Elle intègre, d'une certaine façon, l'expérience esthétique de Swann comme s'il y avait un travail compensatoire de l'imagination. Et ça va très loin, parce que sur sa table de travail, il pourrait avoir une photo d'Odette. Non, il a une reproduction de la Zéphora de la chapelle Sixtine. Autrement dit, Odette devient un être imaginaire, d'autant que se greffe sur sa personne une deuxième expérience esthétique, à savoir la petite phrase musicale de la sonate de Vinteuil, qui va devenir l'hymne de leur amour. Cette petite phrase musicale, ils l'entendent tous les deux, Odette et Swann, dans le salon des Verdurins, là où ils se rencontrent. Et à partir de là, Swann ressent toutes les souffrances de l'amour, parfois aussi le plaisir, mais ce sont les souffrances qui dominent, d'autant que le besoin impérieux de possession de l'être aimé, eh bien, va dégénérer en jalousie.
Alors, j'ai du mal, j'ai lu et relu souvent ce passage. Est-ce que cela pourrait nous renvoyer à cette idée, proustienne par excellence, que l'art est supérieur à la vie?
Sans doute. En tous les cas, pour un mondain comme Swann, c'est le cas. Seulement, il y aura une différence avec le narrateur. Swann, c'est un velléitaire. Swann est quelqu'un qui n'a... C'est un grand bourgeois qui n'a jamais rien fait pour gagner sa vie. Et il se contente de contempler les œuvres d'art. Il est incapable de terminer
ce fameux essai
sur Vermeer où il pourrait justement faire preuve de création, de créativité. Et d'une certaine façon, pour lui... la réalité, effectivement, est souvent inférieure à ce qu'il peut ressentir devant les œuvres d'art. Et c'est le cas, ça va être le cas pour cette petite sonate de Vinteuil, qui va l'accompagner tout au long de sa vie et qui va être le témoin de ses souffrances, de sa déception, de son amertume et au final de son abandon, même s'il va finir par l'épouser.
Mais le corollaire aussi de cet amour aveugle, pour reprendre une image ô combien banale, c'est aussi la jalousie.
Absolument. Et la jalousie est décrite là de façon terrible par Proust, parce que au moment où Swann recherche Odette dans cette nuit parisienne, il est dans sa voiture menée par son cocher, et à ce moment-là, le narrateur proustien dit que il n'est plus seul. Il y a comme un être qui est amalgamé à lui, un être qui serait comme un succube ou un vampire. Et ça, c'est tout à fait étonnant et ça en dit long sur cette jalousie que le narrateur lui-même va éprouver pour Albertine.
Oui.
Et là encore, on a un couple tout à fait improbable. Il vit, le narrateur, lui aussi, l'insupportable amour avec l'une de ces jeunes filles en fleurs qu'il a choisie, Albertine. Et comme Odette pour Swann, eh bien, Albertine devient une femme à jamais inconnue, la fameuse terra incognita dont parle Proust, et il la séquestre physiquement dans son appartement.
Et Albertine se plie
et
à
elle se
ce
plie
désir
à
de séquestration.
Absolument. Et il la séquestre pour éviter de souffrir de la jalousie, parce qu'il sait qu'elle va aller rejoindre des amis à elle. Il sait qu'elle va avoir des relations avec ses amis, des relations sexuelles avec ses amis. Et il a trouvé cette solution de la séquestration. Mais en vérité, ce n'en est pas une.
Oui, et vous nous proposez cette citation, vous nous la lirez si vous le voulez bien dans sa totalité, mais identifiant Albertine à un oiseau, il écrit ceci. Une fois captif chez moi, l'oiseau, Albertine, avait perdu toutes ses couleurs.
Voilà.
Donc l'amour dans la possession ou dans sa réalisation tombe de lui-même.
Absolument, absolument. Et il s'aperçoit d'ailleurs que plus il la séquestre, moins il l'aime. Et c'est ce qui est tout à fait troublant. Alors que lorsqu'elle était sur la plage avec ses amis, désirée peut-être par ses amis, désignée en tout cas comme une femme belle, une femme désirable, eh bien à ce moment-là, il avait envie effectivement d'être avec elle, de l'aimer. Et effectivement, une fois enfermée, comme un oiseau, elle a perdu toutes ses couleurs. Elle n'a plus aucun attrait. Il ne l'aime plus. Et c'est terrible parce qu'il va pratiquement souhaiter sa disparition, alors qu'on sait très bien que dans Albertine disparue, Albertine, de fait, va mourir. Elle va tomber de cheval. Et cette mort, il la vivra après comme une culpabilité. Alors, la différence avec Swann, c'est que le narrateur, lui, va utiliser sa souffrance, ses doutes, cette jalousie irrépressible comme des matériaux pour sa future œuvre d'art.
Vous disiez que Proust lisait et aimait Racine. Il allait même à des représentations de Phèdre, notamment interprétées par la grande comédienne de l'époque, la Berma, n'est-ce pas ? Il connaissait Rachel, il connaissait Sarah Bernhardt. Il y a dans ces deux couples quelque chose qui est étonnant aussi, c'est que le sujet aimant s'éprend de l'être le plus opposé qui soit à lui-même.
Absolument, et c'est ce qui va peut-être conférer à ces amours, à ces belles amours, une aura tragique. Et on va retrouver, il le dit d'ailleurs le narrateur, il dit « mais c'est incroyable, finalement, je retrouve dans Racine ce que moi, je vis dans mes expériences amoureuses ». Et on a souvent parlé des aspects tragiques de la recherche, du roman « À la recherche du temps perdu », et je crois que ce tragique, il est dans cette fatalité de l'amour. Il pèse sur les amours un déterminisme qui est encore d'actualité, j'ai presque envie de dire, par rapport à ce qu'écrivait Racine sur Phèdre. Scherzo infine.
Dialogue, Monserrata Vidal.
La tromperie, c'est quelque chose que nous entendions dans ces notes de musique proposées par Sylvie Toucheboeuf. La jalousie, la trahison, mais surtout ce qui nous importe, c'est le style, c'est l'écriture proustienne, Sylvie Toucheboeuf. Et donc, cette révolution romanesque de Proust, dont nous parlions dans la première émission, passe aussi et surtout par l'écriture et d'abord par l'image.
Exactement, il y a toute une esthétique de l'image dans ce beau roman. Que ce soit des comparaisons, des métaphores, des allégories, Proust métamorphose et les personnages, et les lieux, et les situations. On dira qu'il les mythifie. J'ai presque envie de dire comme tous les grands romanciers. Le travail essentiel, l'essence même de la création romanesque, c'est tout de même la métamorphose. Cette métamorphose passe par une mythification. Charles Danzig, dans son essai, parle même de mythologisation. On peut aller jusque-là. L'image n'est jamais, pour Proust, un ornement gratuit. Nous-mêmes, d'ailleurs, en parlant de l'œuvre de Proust, on ne peut pas s'empêcher de citer la cathédrale, la robe, l'océan. Ces images, elles formulent toujours un rapport entre des sensations et des souvenirs. Elles donnent parfois une interprétation de la réalité, psychologique, poétique. Parfois même, et ça serait un peu long de le montrer, mais il faut le savoir, elle fait partie de l'architecture du roman, exactement comme la cathédrale. C'est-à-dire qu'on retrouve, ça et là, des résonances entre les images évoquées.
Vous parliez, pardon de vous interrompre, mais de la maîtrise de la construction dans ce roman. Absolument. L'architecture, elle n'est pas seulement au niveau de la composition d'ensemble, mais elle est dans ses résonances, dans ses échos, dans ses analogies qui sont notamment métaphoriques.
Exactement, et ça fait penser à ce que Bachelard disait de l'image littéraire. Il disait qu'elle avait deux missions, signifier autre chose et faire rêver autrement. Et elle nous fait rêver, cette image proustienne, autrement. Jean-Yves Tadié parle d'un immense effort poétique de transposition, mais il faut savoir que ce n'est pas décoratif, ça va toujours à l'essentiel. Et l'image permet de descendre dans les profondeurs d'un être et de nous approcher de la vérité. Alors je donnerai quelques exemples, si peu d'exemples, mais cela aidera peut-être les lecteurs à entrer dans cette œuvre. Oriane de Guermantes, qui ajuste son manteau, eh bien elle devient un signe divin qui fait tous les mouvements de son espèce animale sans se souvenir qu'il est un dieu. Ses convives, ils deviennent comme les statues d'or des apôtres de la Sainte-Chapelle. Les demoiselles du téléphone, thème tellement trivial, deviennent des divinités irascibles. Et les jeunes filles, alors, qu'en est-il de ces jeunes filles en fleurs? Mais les déesses ne se laissent pas approcher. Ça et là, entre les arbres, à l'entrée de quelques cafés, une servante veillait comme une nymphe à l'entrée d'un bois sacré, tandis qu'au fond, trois jeunes filles étaient assises à côté de l'arc immense de leur bicyclette, posées à côté d'elles, comme trois immortelles accoudées aux nuages ou aux coursiers fabuleux sur lesquels elles accomplissaient leur voyage mythologique.
Et alors, que dire de Swann, qui recherche désespérément Odette sur le boulevard parisien? Là, c'est le mythe d'Orphée qui est convoqué.
Exactement. Et la ville de Paris se transforme tout soudain en enfer. Il frôlait anxieusement tous ces corps obscurs, comme si parmi les fantômes des morts, dans le royaume sombre, il eût cherché Eurydice. Et ça, c'est très intéressant parce que chercher Eurydice, perdre Eurydice, c'est aussi faire une œuvre d'art, ce que fera bien sûr le narrateur. Alors, on pourrait dire finalement de Proust ce que Baudelaire disait de Victor Hugo. Il a dressé un magnifique répertoire d'analogies humaines et divine.
Alors, ces images sont véritablement, comme vous le disiez à l'instant, un tissu de mythes qui tisse toute la recherche. Lorsqu'on parle de Proust, pourtant, à des lecteurs pourtant avertis, une réticence, me semble-t-il, apparaît. Et c'est souvent ce lieu commun que l'on entend. Ah, mais ces phrases, on se perd dans ces phrases. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire, Sylvie Touchebœuf, de la phrase proustienne, de l'écriture romanesque, de sa syntaxe, qui est loin d'être la recherche, pardon pour ce mauvais jeu de mots, de la plus longue phrase de la langue française?
Alors, je vais d'abord laisser la parole à Proust. J'aime bien cette phrase. Il dit « J'aime par-dessus tout le style pourvu d'amples ailes et adouci de moelleuses plumes. » Alors nous, on traduit cela par « Oh mon Dieu, que de phrases trop longues. »
Oui, 30 c'est pages vrai. Pour quelqu'un qui n'arrive pas à s'endormir, voilà, disait un esprit vulgaire.
Exactement. C'est vrai que l'écriture romanesque est complètement révolutionnée par la syntaxe pour Proust. C'est vrai que ces phrases sont très longues. Elles ont des lignes ondoyantes. On les a comparées à des tiges, aux rythme enveloppant, on les a comparés à des voilages, à des algues. Exemple, lorsqu'il décrit Albertine endormie. Je m'allongeais à côté d'elle et la retrouvais de profil. Je pouvais mettre ma main dans sa main, sur son épaule, sur sa joue. Albertine continuait de dormir. Elle continuait à dormir comme une montre qui ne s'arrête pas. Comme une bête qui continue de dormir quelques positions qu'on lui donne, comme une plante grimpante, un volubilis qui continue de pousser ses branches, quelque appui qu'on lui donne. On a peut-être entendu dans cette phrase un langage rythmé comme les mouvements de vagues qui viennent et qui reviennent. Si l'on se penche plus précisément sur la phrase, on voit que cela est dû à des reprises, à des répétitions, et la phrase ainsi se propulse en douceur,
on
comme
doit.
Un voilage, elle on doit, hein. Elle on doit
oui,
comme
mais...
un voilage on doit arrêter au vent.
Mais Sylvie Toucheboeuf, vous-même vous le notez, des phrases longues, sinueuses, ondoyantes, et puis celle-ci, il se taisait, il regardait mourir leur amour.
Voilà. Alors, ces phrases courtes.
Ces ruptures.
Voilà. Alors, déjà, ces ruptures, elles servent à marquer un rythme, à briser parfois un rythme. Il ne faut pas imaginer que la recherche n'est composée que de phrases très longues. La phrase courte est utilisée très souvent pour dramatiser certains événements. Swann se taisait. Il regardait mourir leur amour. Tel est le drame. Telle est la tragédie vécue par Swann. Il regarde cet amour impuissant, impuissant à l'abreuver, impuissant à le régénérer. Et par ailleurs, à la fin de La prisonnière, comme au début d'Albertine disparue, on a cette même phrase très courte. Mademoiselle Albertine est partie, avec cette assonance en i qui, véritablement, est en train d'engloutir, malgré ses petitesses, le narrateur dans sa souffrance, dans sa tristesse. Donc, c'est ce lien, si vous voulez, entre les phrases longues et les phrases plus courtes qui donne un rythme extrêmement divers aux pages de Proust. Donc, ne pas avoir peur, effectivement, de phrases trop longues.
Il y a une autre scène que vous aimez bien, je crois, Sylvie Toucheboeuf, c'est la scène des valets de pied à la soirée de Madame de Sainte-Verte. Pour le plaisir de l'oreille de nos auditeurs, quelques lignes, si vous voulez bien.
Quelques lignes. Moi, je voudrais dire que il y a dans la recherche des pages qui constituent des lieux privilégiés de la poésie dans le roman. Et ça, c'est extraordinaire. Je pense que même dans la littérature contemporaine, on peut observer cela. La poésie n'est pas simplement chapeautée par le mot recueil poétique. Je trouve qu'elle a sa place dans le roman et avec Proust, je pense que c'est ce qui est extraordinaire. Au bout de ces métamorphoses, au bout de ces images, il y a une poésie ineffable qui se dégage de certains passages. On se rappelle cette soirée de Madame donnée par Madame de Sainte-Verte dans Du côté de chez Swann, et le personnage de Swann donc arrive. Il est très en retard. Il arrive à cette soirée et voici ce que Proust, ou ce que le narrateur proustien plus exactement, écrit. Dans le vestibule, Swann remarqua, réveillé par l'arrivée inopinée d'un invité aussi tardif, La meute éparse, magnifique et désœuvrée des grands valets de pied, qui dormaient çà et là sur des banquettes et des coffres, et qui, soulevant leur noble profil de lévrier, se dressèrent et, rassemblés, formèrent le cercle autour de lui. À quelques pas, un grand gaillard en livrée rêvait, immobile, sculptural, inutile, comme ce guerrier purement décoratif qu'on voit dans les tableaux les plus tumultueux de Mantegna, songé, appuyé sur son bouclier, tandis qu'on se précipite et qu'on s'égorge à côté de lui. Et les mèches de ses cheveux roux, crépelés par la nature, mais collés par la brillantine, étaient largement traitées comme elles sont dans la sculpture grecque qu'étudiait sans cesse le peintre de Mantoue et qui, si dans la création elle ne figure que l'homme, sait du moins tirer de ses simples formes des richesses si variées qu'une chevelure, par l'enroulement lisse et les becs aigus de ses boucles, ou dans la superposition du triple et florissant diadème de ses tresses, a l'air à la fois d'un paquet d'algues, d'une nichée de colombes, d'un bandeau de jacinthe et d'une torsade de serpent.
Quelle magnifique prose, prose poétique. Nous arrivons presque au terme de cette émission, de cette seconde émission, Sylvie Toucheboeuf. Il nous reste, je crois, une petite minute. N'oublions pas que À la recherche du temps perdu s'achève par Le temps retrouvé. Le temps retrouvé pour le lecteur. Un petit mot sur cette phrase. Chaque lecteur est, quand il lit, le propre lecteur de soi-même.
Voilà, ça c'est l'aide que l'on peut rencontrer, c'est le charme de la lecture. Il ajoute d'ailleurs, hein, si je complète cette phrase, « L'ouvrage de l'écrivain n'est qu'une espèce d'instrument optique qu'il offre au lecteur afin de lui permettre de discerner ce que, sans ce livre, il n'eût peut-être pas vu en soi-même. » Et ça, c'est passionnant parce que qu'est-ce que lire, au fond, sinon entrer en contact avec des univers personnels, des univers pleins d'originalité parfois, pleins d'émotions, et puis pleins de cette beauté de l'écriture. Et c'est cette communion, finalement, avec le lecteur que recherche Proust. Donc, on voit combien il était préoccupé de la réception de son ouvrage.
Merci, merci Sylvie Toucheboeuf. Vous nous permettez d'entrer dans cet univers poétique, dans cet univers romanesque de Proust par la lecture pleine de sensibilité que vous nous en proposez. Et donc, j'invite tous nos auditeurs à entreprendre la lecture de À la recherche du temps perdu, si ce n'est déjà fait. Et il y a eu pléthore de publications au cours de l'année 2022, peut-être lire cet essai que vous avez cité à plusieurs reprises, Proust Océan, de Charlotte Dantzig. Merci encore.
Merci à vous.